Merci d'être venu. Merci pour ceux qui étaient déjà là et qui ont patienté et qui restent, et ceux qui nous rejoignent. On va entendre maintenant M. Patrick Simon, directeur de recherche à l'INED, spécialiste des questions de population et des migrations. Il a été un des premiers, en tout cas il a dirigé la première enquête d'ampleur en 2008, en fait 2006-2008, je crois, qui a donné ses résultats et qui a donné l'ouvrage Trajectoire, Origine et Trajectoire, qu'on appelle, enfin qu'on résume en Théo. C'est, quand je dis la première enquête d'ampleur, elle a été faite sur plusieurs centaines, voire milliers de personnes, d'après ce que j'ai vu dans l'enquête, contrairement, et qui a été analysée de manière très, très pointue, avec plusieurs variables, posant les bonnes questions. Je l'ai avec moi. C'est ce livre-là, et vous avez toute une partie à la fin, enfin vous avez tout un chapitre qui a été signé par Patrick Simon et Tiberge, qui traite de la question des musulmans dans la société française. Il aborde dans ce texte, mais je ne vais pas le résumer, je vais lui laisser la parole pour qu'il le traite lui-même et il le fera mieux que moi, simplement pour souligner qu'avant lui, il y a eu plusieurs travaux, notamment ceux des politologues. L'équipe Rémi Leveau a été la première, en tout cas après Robert Montagne a été la première, avec Gilles Kepel, donc Rémi Leveau, Gilles Kepel, à avoir travaillé sur la question des musulmans en France ou dans la société française. Leur publication avait commencé dans les années 1984 pour les premières, et ça a continué comme ça. Enfin, je pense que vous connaissez tous les travaux de M. Kepel et de son équipe. C'est, je parle de ces enquêtes-là par rapport à cette enquête-là, parce qu'on a eu tous les travaux, en tout cas, et qui s'en sont inspirés par la suite, sur des enquêtes, en fait, et qui ne représentaient pas grand monde. Si je prends le premier livre signé Rémi Leveau Kepel, Les musulmans dans la société française, ça a été fait sur une soixantaine de personnes. Et à partir de ces 60 personnes qui ont été, et quand je dis musulmans, donc vous aviez aussi bien des Maghrébins que des Africains subsahariens, etc., des Turcs, enfin voilà. Et leurs résultats ont toujours été extrapolés sur l'ensemble du territoire français. Et ça continue. Je pense que si vous prenez les dernières publications qui viennent de paraître, on n'est pas loin du même chiffre. On l'a probablement doublé, c'est-à-dire quand on s'intéresse à la question auprès de combien de personnes vous avez fait votre enquête, on n'a généralement pas un chiffre très important, mais les résultats, là, dernièrement, ça a été à peu près 150, et les résultats ont été extrapolés de la même manière. Voilà, donc je cède, je ne vais pas parler plus longtemps, je poserai beaucoup de questions tout à l'heure, et je cède la parole à M. Patrick Simon.
Merci beaucoup, et je suis ravi d'être parmi vous ce soir. La présentation va être une transition un peu compliquée avec la précédente. Hein. On change d'univers et surtout on change de type d'approche. Je n'ai pas le talent de Pierre-Jean Louisard pour retourner dans l'histoire. Et je ne suis pas spécialiste des musulmans d'un point de vue strict. Je m'intéresse plutôt aux questions de migration et de discrimination. Et c'est un peu ce que je vais essayer de vous raconter à travers l'exploitation de l'enquête Trajectoire et Origine, en essayant de revenir sur des débats qui sont en cours sur la question des musulmans en France. C'est une question qui agite beaucoup l'actualité sociale. Quelques publications récentes, surtout autour des questions de radicalité, de radicalisme et de djihadisme, on fait parler d'elles. Ce n'est pas l'approche qu'on a choisie, mais je vais essayer de dialoguer un petit peu quand même malgré tout avec ces travaux-là. Et pour en préambule, peut-être, même si l'histoire de l'islam en France n'est pas une histoire nécessairement liée à la migration, c'est pas ici que je vais l'apprendre. La France a un empire colonial dans lequel l'islam est extrêmement présent, et donc ces liens se sont tissés et construits dans d'autres circonstances. Mais aujourd'hui, la question de la religion, en tout cas des religions minoritaires, est assez liée à la question des migrations. Et en particulier, l'élément qui est saillant dans la façon d'aborder la présence religieuse en France, c'est qu'il y a un décalage qui est perçu entre une sécularisation très puissante de la société française et des nouveaux venus qui viennent de sociétés où la religion a un rôle beaucoup plus important dans l'organisation de la vie sociale, dans la vision du monde et dans les structures politiques dont ils sont issus. Et cette transplantation, en quelque sorte, à travers la migration, va créer en fait des décalages en partie, qui ne sont pas uniquement liés d'ailleurs à la religion, hein, mais c'est un peu la vieille question de l'intégration des populations immigrées dans la plupart des sociétés où elles arrivent, c'est-à-dire la recréation ou la transformation de pratiques, de modes d'organisation des sociétés dont elles sont issues dans les sociétés où elles arrivent, avec ce qu'on sait assez généralement des inventions, en réalité, ça ressemble à de la recréation, mais c'est plutôt de l'invention dans les sociétés où elles arrivent, mais qui sont perçues par les groupes majoritaires comme étant de l'exotisme appelé à disparaître à court ou à moyen terme. Et donc, dans la question de la religion, ce qui rend les analyses un peu compliquées, c'est qu'en réalité, il y a une imbrication entre la dimension culturelle et la dimension religieuse. On ne sait plus très bien s'il s'agit de religion au sens strict ou s'il s'agit à travers la religion, la perpétuation d'un certain nombre de liens familiaux, collectifs, qui vont se cristalliser sur la religion. Par exemple, les travaux aux États-Unis autour des questions d'ethnicité. Herbert Gantz propose le concept de symbolic ethnicity et il prend l'exemple des communautés juives américaines en montrant comment ces communautés juives américaines, s'américanisant, en fait inventent des rituels juifs qui ne sont pas du tout importants dans l'histoire, la tradition juive, mais qui prennent, qui sont une marque identitaire du judaïsme américain. Et donc, ce qu'il explique, c'est qu'en fait, les pratiques sont trop exigeantes dans le nouveau contexte. Et donc, on va inventer de nouvelles pratiques qui servent à signifier l'existence du groupe et son identité, tout en s'articulant très très bien avec l'American Way of Life. Et donc, en France, on peut identifier aussi des mutations de cette nature-là, qui donnent l'impression qu'il y a une sorte de survivance, alors qu'en réalité, c'est une invention. En tout cas, c'est une forme de production d'identité ethnoculturelle. Qui emprunte la dimension religieuse pour se manifester. Et la religion, en tout cas dans le cadre français, suscite des questions autour des accommodements. Alors les accommodements, il y a une terminologie canadienne, québécoise, qui est relativement pertinente. On appelle ça les accommodements raisonnables, ce qui signifie qu'il y a des accommodements qui seraient déraisonnables, c'est-à-dire jusqu'à où des pratiques peuvent trouver place à l'intérieur d'une structure où elles n'avaient pas d'existence auparavant et auxquelles elles peuvent s'articuler. Dans le cas français, dans les débats, on peut donner un exemple assez simple, connu, les repas à la cantine. Voilà un type d'accommodement plus ou moins raisonnable. Est-ce qu'on est capable, dans des cantines, de prévoir des diversités de régimes alimentaires et est-ce qu'on peut donner droit à des restrictions alimentaires ou pas? Selon quel principe? Selon quelle modalité? Autre type d'accommodement raisonnable ou déraisonnable, les piscines. Est-ce qu'on peut concevoir que des créneaux d'utilisation des piscines peuvent respecter ou pas des demandes d'utilisateurs, ici utilisatrices, qui, au nom de la religion ou d'une pratique, préfèrent ne pas avoir de bassin mixte et donc privatiser, ou en tout cas demander pendant une période que la piscine ne soit pas ouverte à des hommes au moment de cette pratique. Voilà des débats qui ont fait beaucoup parler d'eux et qu'on peut ranger sous l'angle des accommodements, mais qu'on peut essayer de concevoir en dehors de la dimension religieuse. Après tout, les piscines sont privatisées aussi pour faire des bébés nageurs. Le samedi matin, des parents de jeunes enfants ont accès à des bassins dans lesquels il n'y a pas d'autres personnes qui viennent utiliser ces bassins, puisque précisément, on leur fait un espace préservé dans lequel ils peuvent avoir un moment avec leurs enfants. Et c'est un scandale qu'à ce moment-là précis, des parents, des personnes qui n'ont pas des parents de jeunes enfants n'aient pas le droit d'accéder à la piscine. Et selon quel principe cette privatisation de la piscine soit tolérée, alors que quand c'est des femmes musulmanes ou juives, par exemple, qui le demanderaient, on considère que ça n'est pas pertinent ou en tout cas acceptable que cette privatisation se produise, en appelant au bien collectif et à la nécessité que chacun se confronte aux autres au moment où il rentre dans une piscine. Bon, on voit que deux exemples qui, l'un inclut la religion, l'autre pas, posent des questions sur qu'est-ce que c'est le bien commun, quelles sont les règles par lesquelles on fait des accommodements. Je prends ces exemples à dessein pour dire qu'on devrait peut-être baisser de régime dans l'appréciation des conflits liés aux religions, en tout cas sur ces aspects extrêmement pratiques qui sont ceux des accommodements. D'autres questions qui sont posées, qui sont ceux en fait, de la transmission intergénérationnelle des religions dans les familles suite à la migration ou sur des durées beaucoup plus longues, et le maintien ou pas de ces identités religieuses à la suite de ces transmissions. Et enfin, un autre débat qui est très, très présent et même omniprésent aujourd'hui, qui ne tient pas tellement aux pratiques, mais aux normes et aux valeurs. Et j'en dirai un mot à propos d'enquêtes récentes qui s'intéressent à la capacité des musulmans à accepter les valeurs républicaines et réciproquement, à savoir est-ce que l'islam est compatible avec la démocratie et l'organisation politique qui prévaut en France. Est-ce que les orientations, attitudes morales des musulmans sont accommodables avec un certain nombre de valeurs qui, et de normes qui ont été défendues ou en tout cas qui sont conçues comme étant caractérisant la société française aujourd'hui. Sachant que par ailleurs, évidemment, quand on parle de normes et de valeurs, elles sont rarement littéralement hégémoniques et elles font aussi l'objet de contestations par des personnes qui ne sont pas nécessairement musulmanes mais qui ne partagent pas les mêmes normes et valeurs. Récemment encore, il y a eu des débats autour du vote de la loi sur le mariage dit pour tous, en tout cas le mariage des personnes de même sexe, dans lesquels les oppositions ont été extrêmement nourries et n'étaient pas spécialement uniquement portées par des familles musulmanes, mais il semblerait que les valeurs de la société française à ce moment-là aient été relativement clivées. Et donc, à quel type de valeurs faut-il se référer pour savoir celles qui caractériseraient la société française dans leur ensemble? On va essayer d'en discuter un petit peu. Pas tellement sur les valeurs, parce que, de fait, les données que je vais vous présenter dans l'enquête dont il est question n'ont pas posé de questions sur les valeurs. Donc je n'ai pas de point de vue sur les valeurs. En tout cas, ce n'est pas tellement de ça dont je vais parler, mais je vais parler d'enquêtes qui l'ont abordé. Les résultats que je vais vous présenter viennent de cette enquête trajectoire et origine, qui a donc été faite en 2008-2009 par mon institution, l'INED, et moi et quelques collègues, à l'INED et par l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques en France. Donc c'est une enquête de la statistique publique qui a porté sur 22 000, alors c'est un peu plus que quelques centaines, hein, c'est 22 000 personnes, avec un choix délibéré de surreprésenter les personnes immigrées, les personnes dont les parents sont immigrés mais qui ne sont elles-mêmes pas immigrés, qu'on appelle les descendants d'immigrés, et puis des personnes originaires des DOM, qu'elles soient elles-mêmes natives des DOM, soit qu'elles soient descendantes de natives des DOM, dans la mesure où leur situation vis-à-vis d'un certain nombre de conditions d'existence en France s'approche pour beaucoup de celles des immigrés, même si, évidemment, ils sont français et qu'ils ont migré à l'intérieur du territoire français. Mais bon, la question de la Guyane, des Antilles et de la Réunion, vu leur position géographique, n'est pas exactement la même que celle du Berry et de l'Auvergne. Et donc, la question de leur participation à la société était intéressante à traiter également. Et puis, en regard de ces groupes-là, une population qu'on a qualifiée de majoritaire, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas d'ascendance immigrée sur deux générations, vous allez comprendre le principe ensuite quand je montrerai les résultats. Je vais faire une première digression sur la question des données sur les populations minoritaires, en particulier sur celle des religions, parce qu'on l'a abordé. On connaît mal les situations des groupes religieux en France dans les enquêtes de la statistique publique. D'abord parce qu'on ne pose pas de questions sur la religion, la plupart du temps. Le recensement n'en pose pas. Et donc, on est souvent réduit à des sondages. autour de 1000 personnes, 1200, qui vont essayer de savoir ce que les gens pensent des groupes religieux, et parfois, de façon plus exceptionnelle, des sondages qui permettent d'identifier des minorités religieuses. Alors, sur 1000 personnes, évidemment, les musulmans représentant quelque chose comme 7% de la population en France, ça fait 70 personnes. On ne peut pas dire grand-chose sur 70 personnes. De ce point de vue-là, on apprend peu de choses à travers ce type d'enquête. Donc, il faut avoir une stratégie délibérée d'aller les rechercher. Et c'est ce qu'on l'a fait, non pas à partir de la religion, mais à partir de l'origine, mais qui a à peu près les mêmes effets du point de vue des effectifs. Donc, vous voyez que la couverture des religions dans l'enquête trajectoire et origine, 6294 personnes parmi les 22 000 que j'ai évoquées se sont déclarées sans religion, 7613 catholiques, 5708 musulmanes. Ce sont les effectifs non pondérés. Hein. Ce qui veut dire qu'en termes de représentation, quand on doit les pondérer, c'est-à-dire pour devenir représentatif de la population entière, ce n'est pas exactement les mêmes pourcentages, vous allez le voir, mais ça veut dire que d'un point de vue du nombre d'observations qu'on fait, on a la possibilité d'analyser les réponses de 5700 personnes en termes de musulmans. Des enquêtes comparables récentes, alors pas les enquêtes qualitatives qui ont été évoquées tout à l'heure, mais deux enquêtes sur lesquelles je voulais dire quelques mots, qui sont l'une menée par l'Institut Montaigne en 2016 autour de l'islam de France. Le rapport s'appelle « Un islam français est possible », qui a été une enquête qui a permis de traiter de 1029 musulmans à travers un panel de l'Institut IFOP, si je ne me trompe pas. Et parmi ces 1029 musulmans, 800, alors je le dis parce que c'est une précision, 874 se déclaraient eux-mêmes musulmans et 155 ne se déclaraient pas musulmans mais étaient de culture musulmane. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de religion, mais ils venaient d'une famille qui était elle-même musulmane. Et donc, sur la base de cette enquête, un certain nombre de questions d'attitude et d'opinion et de valeur avaient été posées. Et c'est, peut-être vous vous en souvenez, que c'est sur cette base-là qu'avaient été construits des groupes, une sorte de typologie des musulmans vivant en France, dont l'un des groupes, représentant 28% de cet échantillon, était qualifié de musulmans qui a adopté un système de valeurs clairement opposé aux valeurs de la République et qui était appelé rigoriste. Donc une sorte d'incarnation d'une figure souvent commentée dans l'actualité sociale et politique de ceux qui seraient en rupture en fait vis-à-vis de la République et potentiellement probablement en position d'avoir une attitude politique qui pouvait également enchaîné sur des contestations plus violentes. Alors le problème de cette construction basée sur des valeurs, c'est qu'il y a des questions qui permettent d'identifier les valeurs et dont on tire un certain nombre d'interprétations. Et ici, par exemple, beaucoup de questions étaient relativement ambiguës dans leur interprétation. Par exemple, parmi les critères qui ont permis de construire ces 28% de personnes qui sont en rupture de République, une question était portée sur la laïcité. Elle était formulée de la façon suivante. En France, la laïcité permet-elle de pratiquer librement la religion? Les personnes qui répondaient non avaient un point sur l'échelle du rigorisme. Il se trouve que beaucoup de gens qui n'ont pas de religion peuvent, d'un point de vue objectif, d'un point de vue quasiment sociologique, j'en fais partie, dire c'est un peu compliqué en France aujourd'hui, dans le contexte, de pratiquer librement sa religion pour des raisons d'organisation, de discours, de limites posées par justement le contexte laïque. Quoi qu'on en pense, qu'on pense que ça soit légitime ou pas légitime, c'est une autre question, mais objectivement, c'est pas si facile que ça, par exemple, sur le lieu de travail, de prier. C'est pas quelque chose qu'on fait de façon anodin, et donc, si on doit tirer une conclusion de ça, c'est que ça n'est pas aussi facile que ça de pratiquer sa religion en France, aujourd'hui, dans ces espaces-là. Et donc, cette question-là n'est pas la même que la laïcité est une menace contre la religion, par exemple. Ou la laïcité, je suis contre la laïcité, par exemple. On aurait pu penser que s'il fallait se positionner en rupture sur une valeur considérée comme républicaine comme la laïcité, autant demander directement qu'est-ce que vous pensez de la laïcité et si vous trouvez que la laïcité est une valeur ou une référence qu'il s'agit de supprimer, par exemple. Donc là, effectivement, la réponse, si la réponse était oui, la laïcité est une menace, ou oui, il faut supprimer la laïcité, on pourrait penser que les attitudes sont franchement hostiles à ce principe. Ce n'est pas la question qui est posée. Et donc, on peut multiplier comme ça les questions sur le port du voile, sur toute une série d'attitudes qui rendent compliquée l'analyse des réponses et qui rendent compliquée la compréhension de ces systèmes de valeurs auxquels il est fait référence. Bon, je ne vais pas développer là-dessus, mais une deuxième enquête a conduit aussi des analyses qui ont été encore plus directement indexées sur la question de la radicalité, et c'est l'enquête d'Olivier Galland et Anne Muxel, publiée dans un livre qui s'appelle « La tentation radicale », et qui propose aussi une analyse extrêmement détaillée des orientations. Alors cette fois, ce sont des lycéens. 23 lycées ont été enquêtés, et 6814 lycéens de 15 à 17 ans ont répondu à des questions. Parmi ces 6814 lycéens, 26% se disent musulmans. On comprend tout de suite que les lycées eux-mêmes ont été choisis dans des zones particulières dans lesquelles il y a une forte concentration d'élèves musulmans, puisque si vous saisissez à peu près la répartition en France, on a à peu près 10% d'élèves en âge scolaire qui se diraient musulmans. Donc si on est à 26, c'est qu'on a quand même été dans des zones un peu particulières. Et donc là aussi, il y a une construction d'une variable qui s'appelle l'absolutisme religieux, qui est fondée sur deux questions. Alors je ne sais pas, je les soumets parce que vous êtes probablement beaucoup plus spécialiste que moi. La première question était une assertion qu'il fallait valider. Il y a une seule vraie religion. Et la deuxième était... religion et science s'opposent sur la question de la création du monde, c'est plutôt la religion qui a raison. Ces deux questions, les deux réponses positives à ces deux questions, créent l'indicateur de rigorisme ou d'absolutisme religieux. 81% des élèves se disant musulmans ont validé la deuxième question. Je me demande ce qu'ils ont compris de cette question. Religion et science s'opposent sur la question de la création du monde, c'est plutôt la religion qui a raison. Alors, on va dire, bon, d'accord, c'est assez clair, et en même temps, est-ce que c'est vraiment clair, cette question? Je ne sais pas. En tout cas, je trouve aussi que la distance entre les questions posées et l'interprétation d'absolutisme religieux, qui est extrêmement chargée aujourd'hui dans les débats politiques et sociaux, pose des questions sur la façon dont on peut détecter ou essayer de comprendre les orientations normatives des groupes dont on parle aujourd'hui. Bien, ceci étant une incise qui n'a pas de rapport avec ce que je vais raconter maintenant, puisque précisément, je ne vais pas contredire ces résultats-là, puisque je ne pose pas de questions sur les valeurs, et donc je n'ai pas d'éléments à apporter en complément. Néanmoins, dernier point, qui est celui d'une question importante sur les musulmans, qui est leur l'évaluation du nombre de musulmans en France. Alors, ça paraît assez banal, finalement, combien y a-t-il de musulmans en France, mais on sait que les estimations varient du simple au double. Claude Guéant, ministre de l'Intérieur, dans des gouvernements précédents, a annoncé entre 5 et 10 millions de musulmans, au jugé. Un pamphlétiste, Jean-Paul Gourevitch, on annonce 8 millions. Et sur les sites du Grand Remplacement, on en trouve 30 millions. Alors, y a-t-il un mystère derrière le calcul des musulmans? Est-ce que c'est si compliqué que ça de savoir qui est musulman ou pas? Alors, évidemment, les définitions changent. Alors, vous avez compris que la définition qu'on a choisie dans l'enquête est de demander aux personnes « Est-ce que vous avez une religion ?» Laquelle? Et dans le cas où les personnes disent qu'elles sont musulmanes, enfin que c'est l'islam, la religion, on appelle ça des musulmans. Les personnes qui disent « Je n'ai pas de religion », on ne les appelle pas des musulmans. Ils ont peut-être une culture catholique, juive, musulmane ou autre chose, mais en l'occurrence, ils n'ont pas de religion. Donc, de notre point de vue, en tout cas dans les analyses qu'on va proposer, ce ne sont pas des musulmans. Et donc, dans l'estimation qu'on fait à partir de cette enquête, on trouve 4,1 millions de musulmans. Est-ce que c'est beaucoup ou pas beaucoup? C'est à peu près le chiffre dont on peut témoigner en 2008. Il est évolutif. Et donc, je vais revenir après sur la composition de cet élément-là. Évidemment, à l'échelle de l'ensemble de la population française, ces musulmans qui représentent à peu près 7,5% de la population sont beaucoup moins nombreux que les personnes se réclamant du christianisme, en particulier du catholicisme, qui est vraiment la religion principale en France, qui se déclarent sans religion. Vous voyez, c'est la partie de droite, la population qu'on qualifie de majoritaire, c'est-à-dire qui n'a pas d'origine immigrée sur deux générations, près de 50% de cette population dit ne pas avoir de religion. La France est un peu en dessous des pays d'Europe de l'Est qui ont un niveau d'athéisme beaucoup plus élevé, mais elle est fait par égal un peu avec les Néerlandais ou d'autres pays européens où la déperdition, en tout cas la déprise religieuse est relativement significative. Mais quand on regarde les groupes ensuite liés à l'immigration, alors pour comprendre ce qui est écrit, la première colonne à gauche, ce sont les immigrés, c'est-à-dire les personnes qui sont arrivées adultes en France, qui sont nées à l'étranger. Celle d'après, 1,5, ce sont les immigrés qui sont venus jeunes, avant l'âge de 16 ans, c'est-à-dire qu'ils ont passé une partie de leur socialisation en France, mais qui sont quand même nés à l'étranger. Les secondes générations immigrées, ce sont les personnes qui sont nées en France de deux parents immigrés. Les secondes générations mixtes, ce sont ceux dont l'un des parents est immigré et l'autre ne l'est pas. Parmi les personnes qui ont au moins un parent immigré, la moitié ont leurs deux parents immigrés et l'autre moitié a un parent immigré et un parent qui ne l'est pas. On imagine volontiers que le fait d'avoir un parent qui n'est pas immigré place dans des situations de socialisation et d'accès à la société un peu différentes de ceux dont les deux parents sont immigrés. Donc c'était intéressant d'essayer de distinguer ces positions-là. Et quand on regarde la religion, vous voyez que dans le code couleur, les personnes se réclamant du judaïsme sont relativement plus que minoritaires, mais difficiles à identifier, même dans l'enquête trajectoire origine. Même sur 22 000 personnes, on arrive à 160, donc c'est pas possible de faire des analyses spécifiques sur les personnes, en tout cas très détaillées sur les personnes se réclamant du judaïsme dans ce cas-là. Les personnes sans religion sont beaucoup moins nombreuses, vous voyez, dans le groupe immigré par rapport à la population majoritaire. Donc il y a bien là ce que j'ai indiqué, c'est-à-dire qu'elles viennent de sociétés dans lesquelles s'inscrire dans une religion fait partie de l'ordre des choses, et donc on ne se dit pas sans religion, ce qui ne veut pas dire qu'on se considère très religieux, mais on n'est pas dans une... On a une inscription religieuse, une affiliation, et ces affiliations sont, pour les personnes qui sont immigrées, et donc plutôt, pas très récents, mais enfin quand même plutôt récents, majoritairement musulmanes, plus que catholiques, ou protestantes, ou orthodoxes. Donc, on retrouve cette représentation-là, y compris chez les descendants d'immigrés ou les générations 1,5. Et donc, il y a une place qu'occupe l'islam de façon plus notable quand on restreint les analyses autour des personnes issues de l'immigration. Vous voyez que, par contre, ceux qui ont un parent immigré et un parent qui ne l'est pas, et on va le voir dans les questions de transmission, le rapport à la religion est assez proche de ce qu'on trouve dans la population majoritaire. Ce qui veut dire que, évidemment, on a un parent qui a à peu près la caractéristique de la population majoritaire, puisque c'est la définition. Mais au-delà de ça, la transmission par le parent qui n'est pas majoritaire, qui est donc immigré, ne reproduit pas la situation des groupes immigrés. C'est-à-dire qu'il y a une déperdition dans la transmission, dans les cas de mixité, qui est extrêmement notable par rapport aux familles dans lesquelles les deux parents ont la même origine ou la même religion. Et ça, on va le voir. Alors, quand on regarde par origine, c'est très compliqué à regarder, il y a beaucoup de couleurs et beaucoup de lignes. Oublions cela, simplement, de façon assez claire, les personnes originaires d'Afrique du Nord sont quand même très 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 majoritairement musulmans, c'est pas un scoop, les personnes originaires de Turquie aussi, les personnes d'Asie du Sud-Est sont un peu plus mixtes, mais c'est là qu'on va trouver des bouddhistes, les descendants de ces personnes-là ont un rapport beaucoup plus distant à la religion et pour une partie d'entre eux se déclarent sans religion. Et enfin, les personnes originaires d'Afrique subsaharienne sont en gros en trois tiers, un tiers sans religion, un tiers musulman et un tiers chrétien. On va rajouter à travers le tiers sans religion des animistes qui en feraient partie. Donc on a là un paysage assez différencié. Et si on essaie de voir ce que ça représente dans l'échelle de la population générale, juste pour cadrer les grandes données quantitatives. Si on oublie la religion et qu'on prend le tableau de gauche, la population qui n'a pas de relation à l'immigration en deux générations, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des relations à l'immigration plus ancienne, mais c'est une autre question, représente à peu près 76% de la population en France entière, et celles qui ont un rapport à la migration sur deux générations en fonction de différentes origines, vous voyez, représentent les 24% restants. Mais quand on fait un focus sur l'Île-de-France, compte tenu des formes de concentration spatiale assez accusées, vous voyez qu'on n'est pas dans les mêmes ordres de grandeur. 57% pour être qualifié de population majoritaire, 43% sont liés à l'immigration. Et quand on restreint à la Seine-Saint-Denis, un département d'1 500 000 habitants, dont on connaît aussi les caractéristiques de concentration et sociale et d'origine immigrée, eh bien, vous voyez que la majorité change. 75% de la population de la Seine-Saint-Denis est liée à l'immigration sur deux générations. 25% pourraient être qualifiés de population majoritaire. Ce n'est pas un scoop. C'est pour toute personne ayant traversé l'Est parisien, c'est une expérience assez banale de voir la diversité des populations. Mais d'une certaine façon, c'est plutôt quand on est blanc en population en Seine-Saint-Denis qu'on ait la diversité, plutôt que quand on est d'origine africaine ou maghrébine. Ce qui n'est pas tout à fait le cas quand on est dans le Puy-de-Dôme ou dans l'ouest de la France. Et quand on regarde la distribution sur les religions, on va retrouver fatalement le reflet qu'on a déjà vu sur la déformation liée à l'immigration. En France entière, 45% des personnes se disent sans religion, et quand on arrive à l'Île-de-France, on a un nombre plus restreint, en tout cas encore relativement élevé. En Seine-Saint-Denis, 36% des personnes se disent sans religion. Par contre, les personnes qui se disent musulmanes représentent 34% de la population de la Seine-Saint-Denis, ce qui a une incidence relevée par Kepel sous un angle dans son travail sur les banlieues de la République, ce qui est en fait une incidence assez banale, qui est que les organisations locales, les associations, la population qui participe à la vie civique locale est quand même souvent d'origine musulmane. Et donc, une partie de ces structures vont refléter la composition de la population, ce qui est souvent interprété comme étant un problème de dérive, mais qui est plutôt le reflet de la population qui habite dans ces quartiers-là. On imagine mal qu'elle soit en train d'animer des associations paroissiales quand elles sont elles-mêmes musulmanes. Donc il y a là une sorte de logique sociologique qui n'est pas une recherche délibérée de prendre le pouvoir, mais, parce que je vais y revenir, qui est simplement, dans tous les quartiers qu'on peut connaître en France, c'est une banalité de la sociologie urbaine, les habitants ont tendance à se réunir en association, et quand ils sont cadres sup, eh ben, ils font des associations qui ne sont pas exactement les mêmes que quand ils sont ouvriers, et quand ils sont musulmans, ils ne font pas exactement les mêmes associations que quand ils sont charismatiques. Voilà. Alors, j'ai déjà dit qui sont les musulmans en termes de nombre. Ce qui est important à rappeler, c'est qu'aujourd'hui, les musulmans en France, c'est 54% des personnes qui sont immigrés, mais 39% personnes qui sont nées en France de parents immigrés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'islam de France est une réalité extrêmement forte. Et tendanciellement, bien que les flux d'immigration continuent à se poursuivre, ils sont quand même beaucoup moins importants qu'auparavant, et donc, probablement, cette dimension d'islam de France va être encore plus marquée déjà aujourd'hui et encore dans les années à venir. Donc aujourd'hui, ce n'est pas un islam d'importation, même s'il y a des structures d'animation du culte musulman qui sont d'importation, c'est suffisamment débattu jusqu'à il n'y a pas très longtemps par le président de la République sous le terme de séparatisme, c'est-à-dire qu'en fait, oui, évidemment, il y a des imams qui viennent de pays musulmans et qui ne sont pas spécialement issus du terroir, mais c'est une dimension, une dynamique qui est, en tout cas du point de vue des fidèles, pas exactement le reflet de ce qu'est l'islam de France. L'islam de France, c'est aujourd'hui un islam français au sens où les personnes qui y participent ont été socialisées et ont grandi en France. Et donc, s'il y a quelque chose qui représente l'islam de France, ce n'est pas nécessairement une reproduction de ce qui existait dans les pays d'origine de leurs parents. Il est principalement maghrébin, encore à 70%, turc dans une plus petite quantité, 9%, et subsaharien pour 10% des cas. Alors ça varie selon les endroits, évidemment, puisque la répartition géographique n'est pas complètement égale. Il y a une toute petite partie de convertis. Ici, vous voyez, la population majoritaire, c'est 7%. Ce ne sont pas tous des convertis, mais quand même une partie d'entre eux le sont. On connaît mal, hein, en tout cas, cette enquête-là ne permet pas de suivre de façon très détaillée les convertis. On sait que c'est quand même une population qui n'est pas négligeable. Et on va le voir dans la question des couples mixtes. Ça peut jouer un rôle. C'est une population qui est relativement jeune par rapport à ce qui se produit en France, mais ça, ce n'est pas une surprise. Et de milieux très populaires, 50% des musulmans sont ouvriers ou employés, et avec une proportion d'inactifs, principalement chez les femmes, assez élevée par rapport à la moyenne en France, et des niveaux d'éducation assez clivés, c'est-à-dire une proportion assez forte de bas niveau d'éducation, en particulier chez les immigrés. Mais par contre, on voit apparaître une proportion d'études supérieures, de diplômés du supérieur de plus en plus importante, en particulier chez les descendants d'immigrés. Et donc, l'adéquation entre islam et faible éducation est relativement trompeuse, parce qu'en réalité, on a, et en particulier par exemple chez les subsahariens, on a des subsahariens migrants hautement qualifiés, qui, ou en tout cas d'études supérieures, qui ne reproduisent pas l'image qu'on a des employés de nettoyage maliens. Qui est souvent l'idée qu'on se fait des subsahariens qui vivent en France. Alors, une estimation a été faite par le Pew Research Center avec des projections sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre, mais en 2016, donc 8 ans plus tard, ils estimaient à partir de nos chiffres qu'il y avait 8,8% de musulmans en France, ce qui est un peu surestimé. En fait, ils ont eu la main un peu lourde. Et en particulier, ils ont essayé de projeter pour les 50 prochaines années la population musulmane. Ils étaient arrivés à l'idée qu'en France, il y aurait un peu plus de 18% de musulmans dans une trentaine d'années. Alors le problème des projections, je ne vais pas rentrer dans le détail non plus, c'est une question démographique qui nous passionne, mais c'est que pour prédire qui va être musulman dans 30 ans, eh bien, il y a des migrants qui vont arriver. On ne sait pas très bien combien, mais ils vont certainement être là. Il y a les enfants, évidemment, de ces migrants, ou en tout cas les enfants des familles musulmanes. Et là, les enfants, il y a deux types de dynamiques qui peuvent être différentes et se compenser. Il y en a une, c'est la fécondité plus élevée des familles musulmanes par rapport aux familles françaises, qui pourraient augmenter leur nombre, les familles non musulmanes, plutôt que françaises d'ailleurs, les familles non musulmanes, qui pourraient expliquer que le poids des musulmans augmente comparativement en 30 ans. Il se trouve que quand on regarde les estimations de fécondité qu'on a pu faire, en fait, les immigrés musulmans ont des nombres d'enfants et des tailles de famille supérieures à la moyenne, très nettement, en France. Par contre, leurs enfants, ceux de la seconde génération, ont des tailles de famille exactement identiques à la moyenne en France. Donc, en fait, en une génération, il n'y a pas de surfécondité qui expliquerait que d'un seul coup, les musulmans se mettraient à exploser leur nombre sans apport migratoire particulier. Et deuxième élément qui rend plus compliquées ces estimations, c'est la transmission intergénérationnelle. Il n'est pas, si on prend cette définition de musulman étant comme quelqu'un qui se revendique de la religion musulmane, il n'est pas donné que toute famille musulmane a des enfants qui se définissent comme musulmans. Et donc la déperdition intergénérationnelle de la religion n'est pas identique selon les groupes religieux ou pas religieux. Et donc il faut corriger ces projections à partir de coefficients de transmission, et on va regarder ça assez rapidement. Alors, première question qui est souvent débattue, c'est celle de la religiosité. On n'a pas été très bon dans l'enquête, je dois reconnaître, hein, pour enregistrer la religiosité des musulmans. Il se trouve que la sociologie des religions a été beaucoup travaillée du point de vue du catholicisme. On a des questions comme, par exemple, un des critères les plus importants du côté du catholicisme, c'est la fréquentation des messes, donc des lieux de culte, régulièrement, comme étant un des critères de forte imprégnation ou pas. Je trouve que ça ne marche pas du tout avec les mosquées. Des personnes très pieuses ne vont pas nécessairement à la mosquée. C'est un type de fréquentation qui est important à comprendre, mais ce n'est pas nécessairement l'indicateur principal en termes de pratiques religieuses. Alors la prière quotidienne est plus significative, mais on n'avait pas posé la question dans l'enquête, donc autant pour nous. On l'a reposée dans la nouvelle qu'on est en train de faire. Mais par contre, là, on a une autre question qui est quelle est l'importance de la religion dans votre vie, qui est une question posée dans la plupart des enquêtes internationales qui essayent de voir le degré d'attachement à la religion. Bon, c'est pas une pratique, c'est plutôt une auto-évaluation de la référence que joue la religion dans la vie des personnes. Et donc, vous voyez ici la distribution chez ceux qui disent la religion ne joue pas du tout un rôle important dans ma vie, qu'on a qualifié de culturel, qui est la partie foncée à la gauche, jusqu'à la partie plus claire, qui sont ceux qui ont dit que la religion jouait un rôle très important pour organiser leur vie. Vous voyez qu'en fait, on a deux polarités. Ce qui relève du christianisme, on a plutôt autour de 75% des personnes qui disent que la religion, c'est pas important ou c'est peu important. Et du côté du judaïsme et de l'islam, on a plutôt l'inverse, 75% qui disent que la religion joue un rôle significatif dans ma vie, soit très significatif, soit plutôt significatif. Donc il y a bien là, effectivement, une importance dans la religion pour les personnes qui opposent ces religions minoritaires avec Alors bon, le protestantisme n'est pas une religion majoritaire, mais en tout cas, le catholicisme. Il y a des explications pour ça, et en particulier celle que je viens de mentionner, c'est-à-dire en fait, une religion qui est minoritaire a une densité en matière d'exigence à l'égard de ses membres plus importante que quand la religion est majoritaire et qu'elle a été métabolisée dans la société, dans laquelle plein de signes sont déjà incorporés, tout en étant laïques, mais sont quand même le reflet de cette histoire religieuse catholique. Et donc, la référence à la religion est moins puissante pour ces personnes, alors que pour ceux pour qui la religion devient une identité culturelle également, eh bien, le rapport à la religion sert de médiation à toute une autre série de questions qui ne sont pas nécessairement religieuses. C'est ce que j'ai essayé de dire au début. Alors, sur la transmission de la religion, ben, vous voyez que quand on prend les familles, les personnes qui ont grandi, on a demandé la religion des parents dans l'enquête. Quand on prend les personnes dont les parents étaient sans religion, vous voyez que 93% des personnes qui ont grandi dans une famille dont les parents n'ont pas de religion se disent sans religion. Les athées font des athées. 7% d'entre eux se déclarent d'une religion, pour 4% pas très importante, et 3% disent bah, « j'ai une religion et en plus c'est important pour moi ». Les transfuges, donc. Chez les catholiques, vous voyez que 25% des personnes qui ont grandi dans une famille catholique ne se disent plus catholiques. Donc la déperdition, à peu près du quart, est beaucoup plus importante que du côté des musulmans ou des juifs, où là on a un chiffre identique. Alors, je vous rappelle que les juifs, on n'a pas beaucoup de gens, hein, donc la fiabilité des résultats est à discuter. Néanmoins, vous voyez que 9% des personnes ayant grandi dans une famille musulmane disent « je n'ai pas de religion ». Donc, la transmission est quand même assez importante, hein, puisqu'on garde 91% des personnes grandies dans une famille musulmane disent « je suis musulman ». Alors, pas toujours de façon très importante. Vous voyez que 20% de ces personnes vont dire ben, « moi, la religion, ce n'est pas très important pour moi, je suis musulman, mais ce n'est pas non plus... un élément fort de ma vie, et 71% vont continuer à dire « bah oui, mais pour moi, c'est important ». Et là, on a une symétrie avec les Juifs. Alors, pour le cas du judaïsme, c'est plus compliqué, parce qu'il n'est pas évident que des personnes qui se revendiqueraient d'une culture juive ou d'un rattachement plutôt intellectuel au judaïsme se disent « de religion juive ». Donc, quand on pose la question de la religion, ils ne répondent pas. Et donc, ils ne sont pas inclus dans ce groupe. C'est là que... Et il est probable que pour l'islam, d'ici quelques générations, on va avoir le même mécanisme de sécularisation de l'islam, c'est-à-dire d'une référence intellectuelle, identitaire à l'islam, qui ne soit pas considérée comme du religieux. Donc une transformation de cette référence qui est envisageable. Mais enfin, pour l'instant, ce n'est pas ce qu'on observe. Ce qui est important, c'est le bas du tableau. Vous voyez que quand on prend les personnes qui ont grandi dans des familles mixtes, c'est-à-dire dont l'un des parents avait une religion, l'autre n'en avait pas ou avait une autre religion, ben là, on voit que les transmissions sont beaucoup plus compliquées. Vous voyez que quand on est d'une famille dont l'un des parents est catholique et l'autre athée, ce n'est pas 25% qui se disent sans religion, c'est 62%. C'est-à-dire que le parent catholique ne transfère pas beaucoup sa religion à son enfant. Et c'est la même chose avec les musulmans. Quand on a un couple musulman-athée, eh bien, le musulman, dans 51% des cas, ne parvient pas, en tout cas n'influence pas le choix d'auto-identification de son enfant. Donc, la conséquence de ce que je viens de dire, c'est que si on prend au sérieux l'idée qu'il y a, à chaque fois qu'il y a de la mixité dans le couple, il y a une déperdition beaucoup plus forte de la religion, on imagine volontiers que si la mixité progresse, alors là, la religion se perd, et donc, sur plusieurs générations, l'effet géométrique de ces déperditions vont faire que les transmissions, et donc le groupe de musulmans dans 30 ans ou dans 50 ans, ne sera pas aussi important, ne sera pas mécaniquement le reflet des musulmans d'aujourd'hui, additionnés de leurs enfants cumulés sur plusieurs générations, puisque ces mêmes enfants, pour une partie non négligeable d'entre eux, ne se diront pas musulmans. Donc il y a des effets dont on ne peut pas prédire complètement l'avenir, dans le sens où on est absolument incapable de dire quels vont être peut-être des retours identitaires, hein, la ré-islamisation dont on parle beaucoup. Il peut y avoir des formes d'attachement qui peuvent se révéler à la troisième génération, comme ça a pu être le cas dans le judaïsme ou dans d'autres groupes minoritaires. Bon, je vais sauter ça, parce que j'ai pris déjà beaucoup de temps. Alors, justement, sur cette question... de l'âge. Dans quelle mesure on peut dire que les jeunes générations s'accrochent beaucoup plus à l'islam que les anciennes ? C'est-à-dire, est-ce qu'on valide l'idée que les immigrés venus dans les années 60-70 avaient un rapport assez distant à la religion, et puis que, de façon assez inattendue, leurs enfants ont un retour religieux et s'investissent plus dans la religion, comme on l'indique. Alors, c'est compliqué à regarder ça. On a des éléments, vous le voyez ici, sur la proportion de ceux qui se disent pour qui la religion est très importante dans la vie. Et donc, vous voyez, sur le groupe de graphique de droite, vous voyez que les deux courbes du haut, hein, vous vous souvenez, ce sont les juifs et les musulmans, donc ceux qui ont les chiffres les plus grands en termes de religiosité, vous voyez que effectivement, les plus âgés qui sont à droite déclarent un niveau de religiosité plus faible que les plus jeunes. Donc les plus jeunes se disent plus religieux, plus intéressés par la religion que ceux qui ont plus de 30 ans. Donc ça validerait l'idée qu'on a bien un retour religieux, plutôt chez les jeunes générations, qui viendrait contredire un petit peu ce qu'on voit chez les plus vieux. Vous voyez que pour les catholiques, en fait, on n'a pas énormément de variations, c'est la courbe du bas. Et pour, alors bon, ils ne sont pas très nombreux non plus, les protestants et les chrétiens orthodoxes, on a une espèce de courbe un peu bizarre en U, où les plus jeunes, comme les plus anciens, ont un rapport plus distancié à la religion, et c'est ceux du milieu qui s'y attachent. En tout cas, sur la foi de ce résultat-là, on peut dire effectivement qu'il y a, semble-t-il, un retour, une résurgence de l'intérêt pour la religion chez les jeunes générations. Alors, comment le comprendre ? Est-ce que c'est une auto-inscription dans la religion pour ces jeunes ? Par exemple, une identité de résistance, de réaction face à un discours ambiant, face à un certain nombre de stigmatisations qui généreraient ce retour. Ça peut être une explication. Et puis, il y a une autre explication, alors qui est plus compliquée à regarder, qui est qu'en fait, les plus jeunes sont issus de familles qui sont elles-mêmes déjà plus religieuses. C'est-à-dire que les 30 dernières années ont vu l'émergence dans le paysage géopolitique mondial de l'islam, un retour dans les sociétés musulmanes elles-mêmes. Alors ça, je vous laisse le soin de le dire beaucoup mieux que moi, mais d'une importance d'un retour de la religion comme vecteur d'organisation et sociale et politique des sociétés de départ. Et donc, les familles qui sont venues de ces sociétés dans lesquelles la religion a joué un rôle, et je pense au Maroc, à l'Algérie et au Tunisie, notamment, puisqu'ici on parle quand même beaucoup de Maghrébins, sont les héritiers, en quelque sorte, de cette place plus importante jouée par la religion dans leur vie. Donc les enfants de ces migrants venus dans les années 70-80, alors que la religion avait déjà joué un rôle plus flagrant dans les sociétés de départ, sont issus de familles où la religion est plus forte. Et ils reproduisent, par leur déclaration, ce contexte familial. En fait, en gros, ça veut dire la religion, c'est la famille. Donc si la famille est très religieuse, vous avez tendance à être très religieux. Si elle est faiblement religieuse, eh bien vous reproduisez cette dimension-là. Or, le clivage d'âge qu'on voit ici, c'est un clivage de génération de migration. Et donc les parents des 30 ans et plus, des 35 ans et plus, sont déjà des parents qui eux-mêmes étaient moins emprunts dans la religion. Et donc leurs enfants eux-mêmes reproduisent cette distance. Donc, ça veut dire que cette fois, je contredis mon interprétation de tout à l'heure, ça n'est pas une auto imprégnation de la religion qu'auraient les jeunes générations par rupture avec leurs parents, c'est qu'en fait, ils reproduisent encore ce que leurs parents ont fait. Les parents étaient religieux, ils font la même chose, et il se trouve que ça rentre en écho, en résonance avec une évolution mondiale de l'islam. Mais ça n'est pas une sorte de réislamisation dans des familles qui avaient abandonné l'islam. C'est quelque chose qui est relativement fluide du point de vue de ces familles. Voilà. Alors, bon, ça ne change pas énormément de choses du point de vue des positions de ces jeunes. Les jeunes sont vraiment plus religieux que les plus âgés. Mais les mécanismes par lesquels ils le sont ne sont pas exactement les mêmes. Et c'est ça un peu un objet des désaccords qu'on peut avoir. Dernière chose qu'on a fait, on a demandé... on a posé des questions sur l'identité. On a proposé 19 registres d'identité, le sexe, l'âge, les générations, la classe sociale... le niveau d'éducation, les opinions politiques, la religion, la couleur de peau, l'origine culturelle. Bref, on a proposé plein de choses et les personnes devaient choisir 3 critères qui les définissaient le mieux. Et vous voyez ici ceux qui ont choisi la religion parmi ces 3 critères. Et vous voyez que, en gros, 45% des juifs dit la religion, ça me décrit comme un élément important, saillant de mon identité, et c'est le cas de 30% des musulmans. Ça veut dire que quand même, 70% des musulmans ne citent pas la religion comme un élément saillant de leur identité. Ce qui contredit un petit peu, si on veut le prendre, alors, ils le citent plus que les catholiques, vous voyez que les catholiques c'est 5%. Hein, donc, de ce point de vue-là, on peut dire qu'on voilà, a du rigorisme, de l'absolutisme religieux, si on veut utiliser ce terme-là. Mais néanmoins, 70% des musulmans ne trouvent pas que la religion, ça soit l'élément qui va les décrire. Et donc, dans les interprétations, on peut dire aussi que la religion, même si elle est importante dans leur vie, n'est pas non plus l'élément extrêmement saillant de leur identité. Alors, on va avoir des variations, et vous voyez qu'on va retrouver... ce qui est un peu une constante, les personnes d'origine algérienne ont un rapport plus distant à la religion que les Marocains et les Tunisiens. On a un effet de génération pas très accusé, mais quand même réel. Vous voyez que les immigrés, 31%, citent la religion, alors que c'est le cas de 36% des descendants d'immigrés. Donc c'est un peu un paradoxe. Un rôle de la religion plus fort chez les descendants que chez les immigrés eux-mêmes. Et puis on trouve, alors ça, ce qui est aussi... un peu une constante de pas mal de nos résultats, on a peu d'effet de la position sociale. La classe n'explique pas beaucoup des comportements liés à la religion. Et ici, par exemple, les cadres supérieurs ne citent pas beaucoup moins que les employés. Vous voyez que 31% des cadres parlent de la religion comme c'est un facteur d'identité important par rapport à 30% des ouvriers et des employés. Donc en fait, on peut dire que c'est complètement équivalent. Et donc, quand on monte dans la hiérarchie sociale, on n'est pas plus distant à l'égard de la religion que quand on est au bas de la hiérarchie sociale. Je vais sauter ça. Alors, dernier élément avant d'arriver... on va parler 46 minutes, alors je vais être quand même... Parce que j'aimerais bien parler quand même des questions de discrimination qui sont plutôt mes motifs. On a posé des questions pour essayer de mesurer peut-être cet effet de clôture des cercles de relations qu'on qualifie de communautarisme la plupart du temps, qui serait propre aux musulmans. Et donc on a demandé, parmi vos amis, quels sont ceux qui ont le même niveau d'études que vous, la même religion, la même origine, pour les hommes, le même sexe, et pour les hommes et les femmes, le même sexe que vous. Et ce qu'on observe, c'est que vous voyez qu'ici, c'est la proportion de ceux qui disent « mes amis ont le même niveau d'études ou la même religion », donc plus de la moitié de mes amis ont les mêmes caractéristiques que moi. D'accord ? Et vous voyez que pour les musulmans, comme pour les catholiques, comme pour les sans-religion, on a à peu près la même chose du point de vue du niveau d'études. Ce n'est pas tellement la religion qui détermine ça, c'est plutôt effectivement le niveau d'études, hein, si on regarde par ailleurs. Mais quand on regarde la religion, vous voyez que les musulmans ont une plus grande diversité de leur réseau amical, du point de vue de la religion, que les catholiques, par exemple. Alors, évidemment, c'est un peu un artefact, puisque la taille des effectifs des deux groupes ne sont pas équivalentes. Pour des catholiques qui vivent dans des régions où il y a peu de personnes qui ne sont pas catholiques, c'est difficile de trouver des gens qui ne sont pas catholiques pour avoir des amis. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que quand on pose la question aux personnes qui n'ont pas de religion, un quart d'entre eux dit « je ne connais pas la religion de mes amis ». Alors que ceux qui disent catholiques ou qui disent musulmans, ils ne disent pas ça. Eux, ils disent tous nos religions pour leurs amis. Donc il y a une sorte... Le fait de ne pas avoir de religion soi-même... minimise l'intérêt même qu'on a pour la question religieuse, ça s'explique, hein. Mais donc du coup, ça crée un peu un bruit autour des interprétations. Et enfin, dernière chose par contre, là où les musulmans sortent de façon très nette, mais ce n'est pas une surprise, c'est qu'il y a une ségrégation sexuée très forte dans les réseaux de relations, c'est-à-dire que les hommes rencontrent principalement des hommes et les femmes principalement des femmes dans leur cercle de relations, de façon plus notable que pour les autres groupes qu'on a en comparaison. Alors, élément central sur la question des affinités électives et de la restriction du point de vue des relations sociales, c'est évidemment le choix du conjoint. Voilà, c'est pas non plus une surprise. On sait qu'on a quand même des tendances homogamiques sur un certain nombre de critères pour le choix du conjoint, et évidemment, la religion en fait partie. Est-ce que les musulmans dérogent à la règle ? Vous voyez qu'en bleu, c'est ceux dont les conjoints ont la même religion qu'eux. Oui, c'est vrai qu'un peu plus de 70% des musulmans disent « mon conjoint a la même religion que moi », mais finalement, quand vous regardez les catholiques, on n'est pas très loin, et les personnes qui sont athées ont aussi des conjoints qui sont comme eux, avec les mêmes orientations philosophiques. Donc finalement, ce n'est pas un privilège spécifique des musulmans d'aller chercher les conjoints dans un environnement qui est comparable. S'y ajoute une dimension qu'on n'a pas pu vraiment contrôler, qui est que ça ne veut pas dire qu'au moment de l'union, les personnes avaient la même religion. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une conversion ou un abandon en fait, de la religion au cours du temps, de telle sorte que parmi les musulmans, une partie non négligeable d'entre eux, des conjoints, ont pu se convertir à l'islam au moment de l'union, ce qui est aussi une attente en particulier à l'égard des femmes. Et donc, il est possible que cette homogamie qu'on voit là n'est pas une homogamie de départ, mais une homogamie d'arrivée. Et ce qu'on voit ici, quand on regarde, par exemple, quelles sont les origines, non pas la religion, mais les origines du point de vue de l'immigration, des conjoints des musulmans. Vous voyez qu'on a une plus grande diversité, puisqu'en bleu, c'est ceux dont le conjoint est de la même origine sur une ou deux générations que la personne. Si elle est algérien, les autres sont algériens ou descendants d'Algériens, si elle est marocaine, et ainsi de suite. Vous voyez que là, on est plutôt autour de 40-45%, et que dans le reste des cas, on a soit ce qu'on peut appeler un marché de la seconde génération, c'est-à-dire des personnes immigrées sont en union avec des personnes descendantes d'immigrés, on saute une génération, ou pour la partie du dessus, c'est une mixité avec soit la population majoritaire, soit avec des personnes d'une autre origine, tout en étant immigrés. Mais vous voyez que le niveau de mixité est un peu plus élevé que la mixité religieuse. Bon, mais je ne vais pas développer là-dessus. Par contre, ce qu'on sait et ce qu'on observe, c'est que la religion, comme l'origine, est un facteur de stigmatisation et d'exclusion dans la société française. Il y en a un certain nombre d'éléments qui vont l'incarner. Alors, c'est compliqué à analyser, puisque, évidemment, les musulmans, on l'a compris, sont à 70% d'origine nord-africaine, ce qui veut dire que tout ce qui va concerner les nord-africains va concerner les musulmans, et réciproquement. Même si on peut trouver, on peut trouver des personnes qui sont originaires d'Afrique du Nord, qui se disent sans religion, ou voire même sont de religion minoritaire, des juifs, des chrétiens, en nombre assez limité. Mais quand même, globalement, il y a quand même un recoupement extrêmement fort. Donc, quand on va observer des discriminations liées à l'origine, ça va valoir aussi pour des discriminations liées à la religion, même si le motif de la discrimination n'est pas nécessairement la religion, mais ça va concerner les musulmans, évidemment. Alors, première chose, on trouve des niveaux de ségrégation extrêmement élevés. 38% des musulmans vivent dans les quartiers les plus pauvres. Ce qui est le cas de 7% de la population en général. Donc, il y a un peu plus de 5 fois plus de concentration des musulmans dans les quartiers très pauvres en France par rapport à la moyenne. Et cette concentration est observée malgré, quand on essaie de contrôler, par le niveau social, par la taille de la famille, et ainsi de suite. Ce qui veut dire qu'il y a là un effet de relégation qui n'est pas réductible à des propriétés sociales, et plus encore, la religion explique une partie de cette concentration. C'est-à-dire que l'origine elle-même ne suffit pas complètement à expliquer la concentration, et la religion est un facteur qui joue également. C'est-à-dire que parmi ceux qui sont d'origine, par exemple, subsaharienne, ceux qui ne sont pas musulmans sont moins concentrés dans les quartiers pauvres que ceux qui sont musulmans. On trouve des taux de chômage spectaculairement plus élevés chez les personnes qui se disent musulmanes que chez les autres. Y compris quand on s'intéresse seulement aux immigrés, y compris chez ceux qui sont de la seconde génération. Par contre, la religion en tant que telle n'est pas prise comme un critère, en tout cas on ne trouve pas de traces de ce critère comme un élément aggravant du point de vue des discriminations sur le marché de l'emploi. C'est un peu compliqué à identifier. Vous connaissez sans doute un certain nombre d'études qu'on appelle des testings, qui consistent à envoyer un CV avec un nom et un CV, donc un nom considéré comme musulman, et un CV avec un nom considéré comme non musulman, avec les mêmes caractéristiques, et on observe que le fait d'avoir un nom musulman et un certain nombre de signaux qui donnent à penser que la personne est musulmane, c'est-à-dire qu'elle est active, volontaire dans une association caritative musulmane, dans le CV, c'est écrit, eh bien, elle est surexposée à origine comparable à des rejets sur le marché du travail, c'est-à-dire que les employeurs ne les convoquent pas, les convoquent moins souvent pour des entretiens d'embauche. Une enquête a fait ça en comparant des Libanais qui soient soit juifs, soit chrétiens, soit musulmans, avec les mêmes des noms libanais, mais avec ces trois signaux différents de religion et observe de façon très claire que les musulmans ont un traitement extrêmement significativement négatif par rapport aux juifs et plus encore par rapport aux chrétiens. Donc la religion en tant que telle est une pénalité sur le marché de l'emploi et c'est vrai sur d'autres secteurs. On a posé des questions sur le port du voile par les femmes musulmanes, 26% des immigrés et 13% des descendants d'immigrés, donc vous voyez que les immigrés portent plus souvent le voile que les descendants, ce qui n'est pas tout à fait ce qu'on pense par ailleurs. Et une des conséquences du port du voile, c'est une très grande difficulté à entrer sur le marché de l'emploi. On peut dire que quand même dans la société française aujourd'hui, porter le voile, c'est la mort sociale sur le marché de l'emploi. Ce n'est pas possible de trouver un emploi, ou en tout cas c'est très compliqué, y compris dans les emplois qui ne sont pas en présence directe avec le public, même dans les endroits qui ne sont pas de la fonction publique, puisqu'ils sont par définition fermés, ceux-là, c'est très compliqué. Vous ferez l'expérience, quand vous allez en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada, voir des caissières qui portent le voile dans des grands supermarchés, c'est pas complètement inattendu, ça se produit. Je sais pas si vous avez souvent vu des femmes voilées aux caisses des grandes enseignes françaises dans les supermarchés, mais moi, jamais. En tout cas, quasiment jamais. Et donc, il y a là, alors qu'il n'y a aucune raison, du point de vue du métier lui-même, de la compétence, des obligations légales, à ce que des femmes voilées ne puissent pas travailler dans un supermarché. Donc il y a là un effet de fermeture qui est extrêmement marqué et qui est préoccupant du point de vue des droits sociaux. Bon, il y a des variations selon les origines. Vous voyez que l'Algérie, les Algériennes portent moins le voile que les Marocaines et les Tunisiennes, donc ça confirme aussi d'autres éléments qu'on a par ailleurs. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Et dernière chose, donc, sur les questions plutôt de stigmatisation, ben, par exemple, sur une enquête sociale européenne faite en 2014, on demande est-ce que vous pensez qu'on devrait permettre à des personnes de la même origine que vous de rentrer comme immigrés dans votre pays, aux Juifs, aux personnes d'une race ou d'un groupe ethnique différent. Oui, parce que, bon, dans des enquêtes en anglais, on dit race, hein, on ne dit pas ça en français, mais... dans ce cas-là, on le dit, soit qui viennent de pays pauvres dans l'Europe, soit de pays pauvres en dehors de l'Europe, enfin des musulmans et des Roms. Et vous voyez que les deux groupes les plus, pour lesquels on a les réponses les plus négatives, ce sont les musulmans et les Roms, et qui sont mis au banc des préférences. Et ça, c'est à l'échelle de l'Europe entière. De façon indubitable, les musulmans cristallisent une hostilité que n'ont pas les autres groupes, et en tout cas, vous voyez que l'écart entre antisémitisme là et islamophobie est assez marqué, puisque les hostilités à l'égard des personnes juives, du point de vue de l'immigration, ne sont pas de la même nature qu'à l'égard des musulmans. Et ce qui est assez nouveau, bon, je vais passer sur celle-là, ce qui est assez nouveau, et je voudrais insister là-dessus, dans les enquêtes d'opinion, c'est qu'il y a une conviction extrêmement répandue. Ici, c'est le sondage sur les fractures françaises qui est fait par l'IFP. L'Ipsos pour le journal Le Monde et le Cevipof, qui a été reconduit pendant plusieurs années, donc vous voyez de 2013 à 2018, ici les résultats. Vous voyez que quand on demande, en pensant à la façon dont ces religions sont pratiquées en France, est-ce qu'elles sont compatibles ou pas avec les valeurs de la société française, vous voyez que bon, la religion catholique n'est pas perçue comme très incompatible, la religion juive non plus, un peu plus, mais pas tant que ça, 81% pensent qu'elles sont tout à fait compatibles. Par contre, du côté des musulmans, vous voyez que c'est une grande majorité, plus de 60%, près de 60%, qui disent qu'elles ne sont pas compatibles, 40% disent qu'elles sont compatibles avec les valeurs de la société française, 60% disent qu'elles ne sont pas compatibles avec les valeurs de la société française. Et autre question, est-ce que vous pensez que ces religions cherchent à imposer leur mode de fonctionnement aux autres ? Vous voyez que 78% des personnes pensent que les catholiques ne cherchent pas à imposer leur religion, 79% le pensent à l'égard des juifs, et par contre, c'est la situation complètement inversée, 73% des personnes interrogées pensent que les musulmans cherchent à imposer leur mode de vie aux autres. Et j'insiste là-dessus parce que ça veut dire que, historiquement, on a une vision des minorités, en tout cas sur les enquêtes à l'égard de l'immigration, les immigrés étaient vus comme un fardeau. Des populations peu éduquées, en difficulté sociale, qu'il fallait aider à sortir de leur situation. Et donc, on n'avait pas les moyens ou c'était trop lourd à porter. Il fallait mieux fermer la porte à l'immigration parce que c'était des personnes qu'il fallait accompagner. Ça coûtait cher et c'était compliqué. On est passé de cette vision un peu misérabiliste à une vision complètement différente qui est celle en fait, de l'invasion, qui est celle de la conversion. En fait, les immigrés ne sont pas des minorités lourdes à porter, ce sont des minorités menaçantes. Elles transforment nos modes de vie. Et on le voit avec toutes les unes de journaux, cet islam sans gêne, ça veut dire ça. Ça veut dire, ce sont des pratiques conquérantes, et donc vous voyez, la conquête islamique, on est complètement dans cette ambiance-là. Alors, ce n'est pas tous les secteurs de la société qui le pensent comme ça, mais ça veut dire que cette vision-là conduit à considérer que ce ne sont pas simplement des conduites ou des pratiques qui sont différentes et qu'il va falloir attendre que les personnes s'assimilent pour devenir comme nous, c'est que ce sont des pratiques conquérantes au sens où elles transforment les modes de vie dans les quartiers où les personnes habitent. Et vous vous souvenez des chiffres que j'ai présentés, quand on commence à percevoir que les minorités agissantes sont parfois plus que des minorités, mais quasiment des majorités, on a la thématique qui est très développée sur les territoires perdus de la République, et ainsi de suite. C'est-à-dire l'idée que ce sont des personnes qui sont en train d'installer une autre règle de société, ce qui n'est pas exactement ce qu'on a vu du point de vue des comportements, en tout cas, il me semble, du point de vue des cercles de relations et des autres choses. Alors, je vais passer rapidement sur les discriminations, parce qu'on sait qu'elles sont relativement plus importantes chez les immigrés que chez les autres. Et ce que je voulais indiquer, c'est une chose, l'expérience des discriminations est rapportée beaucoup plus souvent par les personnes plus diplômées que par les personnes peu diplômées. Et ce n'est pas simplement parce qu'il y a un effet d'éducation qui fait qu'on a des horizons, des attentes plus élevées, ce qui est vrai, mais c'est aussi parce que comme on est diplômé, on rentre dans des secteurs dans la société où on n'est pas attendu. On est les premiers à rentrer, avocats, médecins, ingénieurs, et donc les niveaux de fermeture de ces secteurs-là sont plus élevés que les niveaux de fermeture dans la construction. Évidemment, sur les chantiers, être d'origine africaine, ce n'est pas spécialement une originalité. Et donc, ce n'est pas parce qu'on est d'origine africaine qu'on ne va pas vous embaucher sur un chantier. Peut-être comme contremaître, mais comme arpède, ça fait partie du béaba de la composition de la force de travail sur ce secteur d'activité. Par contre, avocat, même quand on a les diplômes, même quand on a les compétences, eh bien, à un moment donné, on va faire une sélection et l'origine, comme le sexe, fait partie des critères qui deviennent opérants et qui vont avoir des effets de discrimination dont parlent les personnes. Et dernière chose, les musulmans parlent plus de discrimination que les autres, à origine égale. Par contre, ils ne parlent pas de discrimination liée à la religion. Vous voyez que la discrimination liée à la religion, en 2008, c'est très faible, c'est 1,5% des personnes interrogées disent « j'ai été discriminée à cause de ma religion ». Mais c'est aussi très faible chez les femmes. 3% des personnes interrogées, des femmes, disent « j'ai été discriminée à raison de mon sexe ». Ce qui est une sous-estimation extrêmement puissante. Vous voyez que quand on a refait l'enquête, enfin, c'est une autre enquête, en 2015, on a reposé la question, 25% des femmes, cette fois, ont dit « j'ai été discriminée à raison de mon sexe ». Donc il y a là, en l'espace de 7 ans, une prise de conscience de l'amplitude des discriminations qui est assez forte, et on va retrouver cette augmentation chez la religion. Vous voyez que toute religion confondue, 18% des personnes qui répondent disent « j'ai été discriminée à raison des religions ». Et quand on prend simplement les musulmans, 5% des musulmans dans l'enquête de 2008 disaient « j'étais discriminé à cause de ma religion », les autres parlaient de leur origine, mais pas de la religion. Et vous voyez qu'en 2015, c'est 40% des musulmans qui disent « j'ai été discriminé à raison de la religion ». C'est-à-dire que le motif de la religion est devenu un motif saillant, compte tenu de nos débats publics, compte tenu de ces dynamiques de stigmatisation, ce qui fait que les musulmans qui parlaient d'origine auparavant se mettent à parler de religion et considèrent que c'est sur des fondements de religion, de leur identité religieuse, qui sont discriminés et plus tellement en raison de leur origine. Donc on a un transfert extrêmement fort qui s'est opéré en l'espace de 7 ans. On est en train de refaire l'enquête trajectoire et origine qui sera plus importante que celle dont j'évoque ici, qui a été faite en Ile-de-France, que j'ai faite en Ile-de-France. Et là, on va savoir si cette observation-là est encore valide, c'est-à-dire qu'en 2020, on a une augmentation forte de ces expériences de discrimination religieuse, ce qui est probable. Bon, je vais sauter ça parce que je suis arrivé loin. Et je voudrais terminer sur deux notes, sur la question de la participation à la société qui est... Bon, un des vecteurs de la discrimination, c'est évidemment, on vous discrimine non pas pour ce que vous êtes, mais on vous discrimine pour ce qu'on pense que vous êtes. C'est-à-dire que ce n'est pas tellement l'identité qui compte, c'est l'image qu'on a des personnes. Et un des éléments qui a à voir avec cette image, c'est l'altérisation, c'est-à-dire le fait qu'on voit les personnes comme différentes. Et on a posé une question dans l'enquête qui est à quelle fréquence on vous demande d'où vous venez ? Bon, c'est une question de curiosité hein, quand on rencontre quelqu'un qui a l'air de venir d'ailleurs pour commencer la conversation, on lui dit « Et toi, tu es d'où ?» Alors évidemment, quand la personne vous dit bah, « je suis né à Sarcelles », oui d'accord, mais d'où ? Tu veux dire avant ma naissance ? C'est ça. Vraiment d'où ? Et c'est une question qui peut paraître un peu banale, mais c'est vrai que ces répétitions quotidiennes donnent l'impression qu'on vient vraiment de quelque part, parce que finalement, on passe son temps à vous demander, donc vous n'êtes pas l'un des nôtres, vous êtes eux, ceux qui viennent d'ailleurs. Et donc, vous voyez qu'ici, quand on demande, regardez le graphique de bas, alors bon, c'est marqué en anglais, parce que j'ai piqué d'une présentation que j'ai faite en anglais, vous voyez qu'en rose, bon, j'ai fait des catégories quasi-raciales, c'est-à-dire que j'ai mis ensemble les personnes d'origine d'Afrique subsaharienne et des départements français d'outre-mer, dont la principale caractéristique pour une grande partie d'entre eux, c'est d'être vus comme noirs. Et vous voyez que 50% d'entre eux, quand ils sont immigrés, disent bah, « moi, on me demande souvent d'où je viens », eh bien, c'est exactement le même niveau qu'ils soient arrivés jeunes en France, qu'ils soient descendants et sont nés en France de parents d'origine subsaharienne ou antillaise ou autre, ou qu'ils aient un parent d'origine immigrée et un parent qui ne l'est pas. C'est-à-dire qu'en fait, on a une continuité absolue de cette externalité, de cette extériorité des personnes, alors même qu'elles sont françaises à 100%. Comme si on n'admettait pas, à cause de leur couleur de peau, qu'elles étaient à partie prenante, de façon assez banale, du reste de la communauté nationale. Et vous voyez que quand on regarde sur les personnes d'origine européenne, ben, la question est posée un peu moins souvent, c'est la courbe bleue, au moment où ils sont immigrés, mais très rapidement, quand ils sont arrivés jeunes en France et quand ils sont nés en France, en fait, on ne leur demande plus beaucoup. Ils passent inaperçus. Les Italiens, les Polonais, les Espagnols, les Portugais, en fait, au bout de deux générations, ils sont fondus dans le paysage général. Ils ne ressortent pas, donc on ne se demande pas d'où ils viennent. Sauf quand on a peut-être un peu des éléments de biographie, mais sinon, ce n'est pas un sujet. Et quand vous regardez sur la religion, qui est le graphique du dessus, ben on va retrouver les mêmes éléments, c'est-à-dire que les faits d'origine, les faits de religion se combinent. Vous voyez que pour les musulmans, non seulement on leur demande, au début, pas nécessairement beaucoup plus que les autres, vous voyez qu'on a un tiercé qui n'est pas nécessairement dans l'ordre où on le pensait, mais par contre, autant les autres groupes, on voit disparaître cette saillance dans les générations suivantes, autant chez les musulmans, c'est l'inverse. La question des origines remonte au fur et à mesure des générations, comme si le fait d'être musulman renforçait le caractère exotique des personnes. Et deuxième question qu'on a demandé, c'est, d'accord, vous considérez comme français, mais est-ce que les autres vous voient comme français ? Parce qu'on a posé la question sur l'identité nationale. Et la plupart des personnes ont répondu, bah oui, moi je me considère comme français, puis éventuellement je me considère comme algérien, italien, espagnol ou autre. Donc on est plutôt dans la multiplicité des appartenances. Mais par contre, quand on leur demande, est-ce que vous pensez que les autres vous voient comme français ? Vous voyez, c'est la réponse ici. 70% des immigrés, quelles que soient les origines, disent, ah ben non, non, moi je suis français, j'ai été naturalisé, mais par contre on ne me voit pas comme un français. Hein. Ça ne marche pas. Alors bon, on peut se dire, c'est vrai, naturalisé, on a un parcours, et ainsi de suite. Mais vous voyez que pour les personnes d'origine européenne, très rapidement, quand ils sont arrivés jeunes en France, 20% seulement disent, bon, on ne voit pas comme un Français. Et puis ensuite, ça devient résiduel. C'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, eux, ils disent, bah oui, moi, je suis Français, je suis vu comme un Français, je fais partie de la communauté nationale. Alors que vous voyez que pour les autres, notamment ceux qui sont d'origine subsaharienne ou des départements d'outre-mer, encore à la seconde génération, 60% des personnes disent « Mais moi, on ne me voit pas comme un Français. » Ils sont nés en France, ils ont grandi en France, ils ont une nationalité française pour beaucoup, quasiment à la naissance. Ils ne sont pas vus comme Français. Ils sont noirs. Donc ils ne sont pas Français. Ce qui veut dire qu'on a créé une situation de racialisation de l'identité nationale, qui est que pour être vraiment Français, pas seulement dans les discours de l'extrême droite, pour avoir l'air français, il faut performer l'identité nationale selon un certain nombre de caractéristiques dans lesquelles non seulement l'origine elle-même joue un rôle, mais la religion. Puisqu'on va retrouver, vous voyez ici, chez les musulmans, c'est redoublé. Alors, c'est compliqué de savoir est-ce que c'est la religion qui joue ou est-ce que c'est l'origine qui joue dans ce cas-là, puisque finalement, les deux se combinent. Mais on voit que les signes de la religion peuvent renforcer aussi le caractère extérieur. Donc, Je termine là-dessus pour dire que dans nos débats autour de la place de l'islam en France, on a beaucoup focalisé sur le rôle des musulmans et la façon dont ils pouvaient participer à la société dans les conditions attendues. Le partage des valeurs, des normes, des pratiques. De façon assez prévisible, il y a des négociations autour des normes. C'est le jeu démocratique. C'est pas pire quand c'est les musulmans qui le demandent que quand c'est les Italiens ou les Polonais. La négociation sur la participation à la société traverse tous les groupes sociaux dans les sociétés. Simplement, quand ça vient des musulmans, on pense qu'ils sont moins légitimes pour réclamer des adaptations. Et on n'est pas aussi sensible aux adaptations et aux évolutions qui traversent les musulmans eux-mêmes dans leurs pratiques culturelles et religieuses, dans la société française, qui est assez notable. Par exemple, on a montré, je n'ai pas présenté ici, on a fait une analyse sur la transmission des prénoms dans les familles musulmanes. Et ce qu'on montre, c'est qu'à la troisième génération, c'est-à-dire les petits-enfants des immigrés originaires du Maghreb, par exemple, portent des prénoms qui ne sont plus arabo-musulmans dans une grande quantité de cas. C'est-à-dire qu'ils font finalement comme tout le monde. Alors, ils sautent une génération. Chez les Italiens et les Portugais, on a adopté des prénoms qui ne sont même pas des prénoms français, mais qui sont des prénoms internationaux. C'est-à-dire les Français ont arrêté de donner des prénoms français, et les Italiens et les Portugais sont sautés directement au prénom international. Il y a un grand marché du prénom général, qui n'est pas typique, qui a été adopté dès la seconde génération par les Italiens et les Portugais ou les Espagnols. Les familles maghrébines ont donné à la deuxième génération des prénoms plutôt arabo-musulmans à leurs enfants. Donc c'est vrai que là, il y a un effet de transmission assez notable. Mais à la troisième génération, ces mêmes enfants-là, ceux qui sont comportés des prénoms arabo-musulmans, eux, ils donnent des prénoms qui ne sont pas arabo-musulmans à leurs enfants. Donc, ils recollent aux pratiques générales et ils choisissent des prénoms, alors soit qui sont frontières, Inès, Yanis, qui ne sont pas des prénoms typiquement musulmans, mais qui sont quand même des prénoms dont tout le monde comprend qu'ils sont quand même renvoient à des familles maghrébines, plus ou moins, mais néanmoins qui ne sont pas dans la tradition arabo-musulmane. Donc, on a des adaptations qui sont notables. Et c'est ça qui est intéressant à comprendre, c'est-à-dire comment la plasticité, finalement, y compris de la religion, dans le contexte français. Par contre, ce qu'on se pose moins comme question, c'est quelle est la capacité de reconnaissance et d'acceptation de la société française à l'égard de l'islam. Plutôt que de demander est-ce que l'islam a des valeurs compatibles avec la République, c'est est-ce que la République a des valeurs compatibles avec l'islam. C'est-à-dire non pas se transformer pour devenir comme l'islam, mais laisser une place à l'islam comme elle a laissé la place au judaïsme et à d'autres religions minoritaires dans la société. Voilà une question sur laquelle vous avez peut-être des réponses. Merci.